Bonjour, je m'appelle Pierre Craig. Bienvenue au balado Les petits caractères. Je suis journaliste. J'ai animé durant 13 ans l'émission La facture à Radio-Canada. Alors, la consommation, j'en connais un petit bout là-dessus. Option consommateur, c'est un organisme à but non lucratif qui vous informe et puis aussi qui défend vos droits depuis 37 ans. Vous imaginez bien que les avocats d'Option consommateur, eux aussi, en connaissent un bon bout. Ensemble, on a eu l'idée de vous présenter deux fois par mois ce balado, un balado qui touche votre vie de tous les jours. Que ce soit, par exemple, un voyage annulé, cette saison, par la compagnie mais pas encore remboursé, un achat en ligne toujours pas livré, comment pouvez-vous défendre vos droits? Avec les avocats d'Option consommateur, je vais décortiquer tout ça pour que les petits caractères, vous savez, là, ceux qu'on dit jamais, moi non plus d'ailleurs, vous causent le moins de soucis possible. Dans notre dernier balado, on a parlé du dropshipping, une technique de vente plus que douteuse. Des entreprises, souvent éphémères, font appel à des agences qui, elles, recrutent des influenceurs pour vendre très cher des produits achetés à bas prix sur des plateformes comme Alibaba. À éviter, vraiment. Aujourd'hui, on aborde la question de la fraude alimentaire. Le sujet est d'actualité en tout temps. L'Association américaine des producteurs de produits d'épicerie estimant que jusqu'à 10 % des aliments dans le monde pourraient être touchés par la fraude. Il ne faut pas oublier non plus que la pandémie a bouleversé les chaînes d'approvisionnement, rendant la fraude plus tentante pour plusieurs. On en parle avec Sylvain Charlebois, spécialiste du secteur agroalimentaire de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Sylvain, s'il y avait un mot, un seul, mettons, là, pour résumer ce que c'est la fraude alimentaire, là, tu me dirais quoi?
Ça serait évidemment étiquette, parce que c'est l'indicateur premier qui nous suggère qu'il y a de la fraude, là. Si l'étiquette n'est pas véridique au détail, on trompe le consommateur en bout de ligne. Et là, il y a un problème en amont. On ne sait jamais trop où est le problème. Mais ça serait probablement le mot, évidemment, il y a d'autres mots comme tromperie, malhonnêteté, accident. Il y a toutes sortes de mots qui peuvent résumer la fraude, mais dans le fond, c'est un problème qui est archi compliqué, là.
OK. Justement, on va essayer de le décomplexifier, si tu veux bien. Les grands types de fraude, Sylvain, tu dirais que c'est quoi? Si on voulait là, donner une idée au public de ça ressemble à quoi les grands types de fraude alimentaire?
Oui, il y a plusieurs chercheurs qui ont catégorisé la fraude. Moi, j'en dénomme trois. D'abord, il y a la substitution. Donc, on va changer un ingrédient pour un autre qui va être moins cher, là. On le voit souvent dans le liquide, comme dans l'huile d'olive, miel, etc.
Dans les épices aussi.
Aussi, effectivement, pour créer du volume là, ou d'autres choses. Il y a aussi la contrebande. Il y a beaucoup de vols dans le domaine de l'alimentation. On pense d'ailleurs au vol du sirop d'érable il y a quelques années. Ce sirop d'érable-là a trouvé d'autres marchés, un marché noir finalement. Donc, il y a de la contrebande beaucoup dans le domaine agroalimentaire. Et puis finalement, il y a la mauvaise représentation. Ça, c'est probablement l'aspect, le type de fraude qu'on voit le plus souvent au Canada. C'est de vendre, par exemple, un produit bio qui ne l'est pas. On va vendre un produit local qui est importé. Le cas le plus célèbre au Canada qu'on a vu à date, c'est le cas de Moochie Farms en Ontario, une entreprise qui, pendant 3 ans, a vendu des tomates mexicaines comme tomates canadiennes. Donc, ça, c'est un cas de mauvaise représentation.
OK, puis tu nous en avais nommé un autre aussi quand on s'en parlait précédemment. Tu nous avais parlé de Alasco.
Oui, Alasco, c'était une entreprise montréalaise qui a fermé ses portes récemment. Alasco, en fait, était une entreprise qui était l'architecte d'un système de fraude alimentaire qui couvrait le globe, le monde entier. Là.
Ah oui.
On produisait des aliments en Chine. Ces produits-là passaient à travers la Nouvelle-Zélande, ensuite le Chili, pour ensuite aboutir au Canada. Et ces produits-là étaient vendus comme des produits chiliens. Mais en réalité, c'était des bleuets, des fraises qui ont été produites là, en Chine.
Écoute, les vieux comme moi, je ris toujours quand je dis ça, c'est pour dédramatiser la vieillesse, se souviennent sûrement du scandale de la viande avariée. Écoute, lors de l'Expo 67, ça avait fait un énorme scandale, un énorme bruit. Il y a eu l'enquête plus récente de Radio-Canada aussi sur les viandes périmées qu'on réétiquetait, l'enquête du journal de Montréal là, sur les poissons qui n'étaient pas sûrs et qui étaient indiqués. Mais à l'étranger, il y a eu des choses graves qui sont produites. Par exemple, je me rappelle là, de toute cette histoire de la mélamine dans le lait en poudre en Chine.
Oui, absolument. En fait, en 2008, pendant des années, il y a eu un genre de système. On ajoutait de la mélamine dans le lait pour augmenter le taux de protéines, finalement, de façon artificielle. Et ça contaminait le lait et ça se passait pendant plusieurs années, mais c'est en 2008 qu'on a découvert le scam. Ouais. En 2008, c'était l'année des Olympiques à Pékin.
Ben oui, c'est vrai.
Alors pendant des mois, on n'a rien dit et on a exposé plusieurs consommateurs à des risques supplémentaires, ce qui a résulté à de nombreuses hospitalisations et décès. Et évidemment, en bout de ligne, avec une enquête, il y a eu quelques personnes qui ont même été... condamné à mort, là. Ouais, absolument. Donc, ça a été vraiment, parce que dans le fond, ça a été un cas assez connu, publicisé à travers le monde et la Chine voulait, en fait, voulait travailler sur son image, là, finalement.
Okay. Il y a un autre cas dont j'aimerais que tu nous parles parce que ce cas-là, ce scandale-là a sonné une cloche là, vraiment importante en Europe. C'est le scandale de la viande chevaline dans la viande de bœuf au Royaume-Uni surtout.
Oui, ça s'est passé en 2013. En fait, ça s'est passé sur plusieurs années, mais c'est vraiment en 2013 que tout ça a sorti. C'est que on a découvert qu'au lieu d'utiliser de la viande bovine, on utilisait de la viande chevaline. Et en Angleterre, un cheval est pratiquement considéré comme un ami comme un chien ici, finalement, ou un chat. Alors, les Anglais n'ont vraiment pas apprécié, ça a créé un scandale. L'Europe est un continent assez compliqué par rapport à l'Amérique du Nord. Hein. C'est l'Est qui nourrit l'Ouest, l'Est qui est, disons, corrompu un peu. Et le traçage et retraçage des ingrédients est quand même assez complexe. Et on s'est rendu compte qu'il y avait du travail à faire à ce niveau-là. Depuis ce temps-là, là, on voit vraiment... Il y a eu une conscientisation énorme au niveau de la fraude alimentaire en Europe comparativement à d'autres endroits à travers le monde, incluant l'Amérique du Nord.
OK, incluant chez nous, malheureusement. Sylvain, bon, si on fait tout ça, si les gens prennent la peine de procéder à ces fraudes alimentaires-là, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent à faire là-dedans.
Non, absolument. Absolument. Au Canada seulement, c'est une industrie qui vaut 230 milliards de dollars. Là. Et puis, c'est
l'industrie
certain.
L'industrie alimentaire, tu veux dire.
Oui, exactement. Okay. Il y a de l'argent à faire, mais il y a une réalité dans le domaine agroalimentaire qui est quand même assez différente par rapport à d'autres secteurs. Le domaine de l'agroalimentaire a toujours été un secteur de haut volume à marge relativement mince. Fait, c'est sûr que le but du jeu, c'est d'augmenter cette marge qui est mince là. Là. Et puis si on peut contourner les coins un petit peu, là, et on peut le faire de façon légale, on va le faire. Mais malheureusement, il y a certaines entreprises qui vont le faire de façon illégale.
Quand le crime organisé s'en mêle, est-ce que le problème, c'est pas qu'il y a moins de risques à faire ça pour le crime organisé que, par exemple, à importer de la drogue, à vendre des armes ou à faire je ne sais pas quoi encore?
Bien, quand on pense aux frontières, il y a plus de surveillance pour ce qui est des drogues illicites que pour l'alimentation. Là, on inspecte quoi à peine 0,5% des aliments qui arrivent au Canada. On va vérifier les manifestes, là, on s'entend, mais les tests, la vérification physique, là, il y a très peu d'aliments qui sont inspectés là, de façon physique. Là. Et un chien ne peut pas repérer, ne peut pas détecter la différence entre un ingrédient ou un autre.
Ouais.
Donc, il n'y a pas l'équipement pour justement monitorer la fraude n'est pas aussi élaborée que dans le cas de la drogue, par exemple, ou de l'armement aussi. C'est là, à mon avis, l'Agence canadienne est responsable de surveiller l'intégrité de notre chaîne. C'est l'agence qui est responsable, mais elle a toujours été mal outillée parce que son monde, le monde de l'agence, c'est vraiment un monde de pathogènes et de microbiologie. C'est pas un monde de fraude et d'actes criminels comme tel. C'est un langage qui est vraiment assez différent, là.
Mais toi, tu sièges sur le comité scientifique, je pense, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc ouais. Ce que tu nous dis, c'est que l'Agence canadienne d'inspection des aliments n'est pas faite pantoute ou elle ne se voit pas comme une agence qui va réprimer la fraude alimentaire.
Elle commence à le faire. Elle commence à peine à le faire. En fait, ça a vraiment... Moi, pendant des années, je siège sur le comité scientifique à Viseur depuis une quinzaine d'années. Puis pendant des années, j'ai essayé de convaincre l'agence de leur dire que la fraude, c'est une question de salubrité, d'innocuité alimentaire autant que d'autres choses. Mais c'est depuis 2 ans que je vois qu'il y a eu un changement là, de ton à l'agence. Là. D'ailleurs, on a eu un budget, 24 ou 25 millions sur 5 ans, ce qui est quand même... ce qui n'est pas grand-chose, mais au moins, c'est un point de départ. Là, on voit vraiment qu'une reconnaissance à l'agence à Ottawa pour ce qui est de la fraude, pour ce qui est de l'existence de la fraude, d'une part, et dans un deuxième temps, on veut justement bien s'outiller pour mieux surveiller la situation.
Puis j'imagine que la pandémie ne va pas améliorer tout ce qui touche les questions de fraude alimentaire. Écoute, on se parlait de crime organisé, mais tu nous disais l'autre jour qu'une grande, grande partie de la fraude alimentaire, ça n'a rien à voir avec ça, là. C'est des gens au départ honnêtes qui ont peut-être un problème à un moment donné, mais je te laisse expliquer. Là. Comment ça peut se passer un peu bébêtement?
Bien, la littérature scientifique se développe de plus en plus. Là. On voit, moi, je suis éditeur d'une revue scientifique qui s'appelle Trends in Food Science and Technology. De plus en plus, les chercheurs s'intéressent à ce phénomène-là de fraude alimentaire. Et de plus en plus, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas vraiment... C'est sûr qu'il y a certaines entreprises qui vont vraiment vouloir frauder de façon intentionnelle dès le départ. Mais ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, c'est souvent l'intentionnel est, suit un accident, finalement. C'est que souvent, on va faire une erreur, on va... faire quelque chose, on va inclure un ingrédient par accident pour ensuite réaliser qu'on a sauvé de l'argent puis qu'il n'y a pas grand monde qui se sont aperçus de ce changement-là. Ça devient de la fraude à long terme parce que là, ben, l'étiquette en bout de ligne pour le consommateur est frauduleuse.
Est-ce que la pandémie va pas avoir un effet amplificateur sur tout ça? Parce qu'écoute, même si on est des ignorants en matière de questions alimentaires, on sait que les chaînes d'approvisionnement, sans avoir été rompues, ont vécu des moments difficiles durant la pandémie pour un ensemble de raisons très compréhensibles. Alors, est-ce que la pandémie, tu sais, tu parles de compagnies là, qui ont des problèmes, qui veulent pas frauder, mais pouf, il se passe quelque chose. Est-ce que la pandémie peut pas amplifier ce phénomène-là?
J'ai l'impression que oui. En Europe, on le sait parce qu'on surveille, on teste, on vérifie. Depuis quelques temps, on s'est aperçu qu'en Europe, justement, il y a eu des problèmes depuis quelques mois. Selon un rapport que j'ai lu récemment du Center for Food Integrity en Angleterre, on prétend que les cas de fraude ont augmenté d'environ 40 % depuis le début de la pandémie. Mais je ne peux pas vous dire, hors de tout doute, si c'est le cas en Amérique du Nord ou au Canada, parce qu'on n'a pas vraiment mesuré quoi que ce soit. On n'a pas de point de référence d'abord avant la pandémie. Et là, avec la pandémie, est-ce que la situation a changé? On ne sait pas. Et c'est quand même préoccupant parce que souvent, les gens pensent que la fraude, c'est une question d'argent. Et ce l'est, oui, ce l'est parce qu'on veut, évidemment, il y a une motivation financière et économique de la part des entreprises, mais il y a aussi l'aspect santé publique qui est important. Souvent, on va intégrer un ingrédient qui devient en fait un allergène pour certains consommateurs. Alors, si l'ingrédient n'est pas mentionné sur l'étiquette et la personne est allergique à cet ingrédient-là, ben, on pourrait exposer ce consommateur-là à des risques supplémentaires.
Mais oui, est-ce qu'il n'y a pas eu, justement, dans les épices, écoute, j'essaie de rassembler mes souvenirs, là, dans les épices, il y avait de la poudre de noix, je pense, dans certaines épices, puis il y a des gens qui ont eu des chocs anaphylactiques à cause de ça.
Absolument. Ben, en fait, c'est pour ça que l'Agence canadienne a justement effectué plusieurs tests aléatoires d'huile d'olive, parce que souvent, on va situer l'huile d'olive par de l'huile de canola, qui devient justement un allergène. Même chose pour le miel. Alors, c'est sûr qu'on surveille avec le support de quelques universités au Canada. L'agence, il va de l'avant avec certains tests aléatoires, mais le problème, c'est que souvent, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qu'on teste. Il n'y a rien qui est public. Une fois de temps en temps, on va sortir. Dans le journal, on va apprendre qu'il y a eu certains tests, mais pas trop. Les gens, c'est comme si on veut en parler, mais pas trop. Or, moi, à mon avis, l'approche européenne est la meilleure parce qu'on a justement exposé le problème, on en a parlé, et les meilleurs surveillants de la situation, à mon avis, c'est le consommateur parce que nous sommes partout, on peut tout voir, et si on soupçonne quelque chose, ben on rapporte la situation. Ouais. C'est un peu le système qu'ils ont en Europe, là.
OK, mais comment ça se fait? Comment tu expliques? Je reviens là-dessus parce que ça me paraît intéressant. Comment tu expliques que l'Europe est rendue aussi loin et nous aussi peu loin, finalement?
Ben, c'est parce qu'ils ont eu une crise. Ils ont eu quelques crises, finalement. En fait, ces crises-là ont vraiment... C'est la nature humaine, hein, c'est toujours comme ça. Les crises vont vraiment pousser les gens à changer, à effectuer des changements au niveau des politiques, au niveau de la régulation. C'est un peu ça qui s'est passé en Europe. Et depuis la catastrophe de la viande chevaline, il y a des millions et des millions d'euros qui ont été investis en recherche pour non seulement développer des systèmes de traçabilité, mais aussi des systèmes de détection aussi au détail, des systèmes portables. Qui pourrait même outiller le consommateur ou la consommatrice en bout de ligne chez elle ou chez lui. Là. On va loin, là. On pousse le concept assez loin. Là. Donc, il y a un genre de contrat moral qui s'est établi entre les consommateurs, les gouvernements et l'industrie en disant, écoutez, il va toujours avoir de la fraude, mais quand même, il faut se protéger aussi. Il faut s'assurer que l'industrie demeure honnête le plus possible. Comment le faire? C'est d'intégrer le public dans la discussion. C'est de s'assurer que le public devient un partenaire pour cette surveillance-là qui va être systémique.
Tu dis qu'en Europe, ils en sont rendus à vouloir outiller le public. Tu avais l'air à parler de certaines technologies. De quoi tu parles?
Oh oui, non, c'est exceptionnel ce qui se passe. C'est sûr que la technologie actuellement est hors de portée financièrement pour plusieurs personnes. Là. On parle d'un petit appareil là, qui peut se tenir dans les mains, qui peut coûter une centaine de milliers d'euros. Là. Malheureusement, mais par infrarouge, résonance magnétique, il y a toutes sortes de... Parce que de faire des tests d'ADN, c'est ce qu'on fait au Canada pour détecter les espèces, c'est une chose. Et c'est ce que l'Université de Guelph a. Où j'étais avant, c'est qu'une banque d'espèces d'ADN. Donc, si par exemple, on arrive avec une pièce de viande, on peut s'assurer de quelle espèce cette pièce de viande-là provient. Mais en Europe, on y va plus loin. On veut détecter la provenance des aliments. On tente de savoir si l'origine alimentaire est exacte. Qui est mentionné sur l'étiquette, comme par exemple, est-ce que on mentionne que le produit vient d'Italie, est-ce que le produit vient vraiment de l'Italie? Et même, j'irai encore plus loin, et si on mentionne que le produit vient de la Toscane en Italie, est-ce que c'est vraiment de là que le produit provient? Mmh. Donc, on veut vraiment pousser le concept pour s'assurer que la chaîne est la plus transparente possible, quoi.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, puis tu en faisais état d'une certaine opacité chez nous, mais est-ce qu'il n'y a pas justement un problème de manque de transparence? Écoute, je me rappelle la bataille des OGM. On ne veut pas qu'il soit indiqué sur les étiquettes qu'il y a ou non des OGM. Il y a eu une autre bataille sur la valeur nutritionnelle des aliments. Est-ce qu'en Europe, écoute, mes souvenirs ne sont peut-être pas précis, mais est-ce qu'il n'y a pas dans certains pays des codes de couleur qui te disent, bien, ce produit-là, tu peux l'acheter, mais il n'est pas très bon pour ta santé. Par contre, l'autre produit, vas-y, go, c'est excellent pour ta santé. Mais ici, encore une fois, il y a beaucoup de résistance, on ne veut pas. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de transparence assez grave chez nous?
Moi, je dirais que oui. Mais c'est sûr que, comme par exemple, votre exemple sur les emballages, les codes de couleur, tout ça, on s'en venait vers ça au Canada. Mais l'élection, la dernière élection a tué le projet de loi à Ottawa. On s'en allait, là. On l'avait, là. C'est juste que c'était Nancy Green, la sénatrice, qui avait présenté le projet de loi. Et en fait, le problème, c'est qu'avec l'élection, tout a tombé. Okay. Il y a une volonté, je pense, une volonté politique de rendre la chaîne plus transparente, mais... quand on discute avec l'industrie, on ne s'entend pas sur ce que c'est une chaîne transparente. Le débat des OGM est un débat parfait pour expliquer ce cas-là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de désinformation par rapport au génie génétique par les lobbies, par toutes sortes de choses. On était pour, on était contre l'étiquetage, etc. Qu'est-ce qui est bon pour le consommateur? On s'est posé la question à savoir, bon, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais on ne s'est jamais posé la question, en bout de ligne, là, la science, le risque, la communication du risque devrait se faire de quelle façon pour ce qui est du génie génétique?
OK. Mais si on revient à notre fraude, il y a une chose que tu nous as dite quand on s'en parlait précédemment puis qui m'a beaucoup frappé. Tu nous as dit les grands joueurs. Là, quand on pense aux grands joueurs, je ne sais pas, Costco, Walmart, etc., ces gens-là n'ont pas vraiment confiance dans le système d'inspection des aliments. Ils font leurs propres inspections parce que c'est leur image qui est en jeu.
Ah, absolument. Alors, et ça se passe un peu en catimini, disons, parce que les cinq grands de la distribution, donc ça c'est Walmart, Loblaws, Sobeys, Metro et puis
je ne l'ai pas dans la tête non plus.
Oui, c'est ça, en tout cas. Ils ont des marques, ces entreprises-là. Ils font extrêmement attention. Ils ont des relations avec les fournisseurs. Donc, c'est sûr qu'eux vont surveiller pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cas. La dernière chose que les entreprises comme Walmart veulent, c'est un cas dans les journaux de fraude alimentaire qui affecte un de leurs produits, surtout une de leurs marques, là. Donc, tu sais, comme par exemple, je ne suis pas certain que Loblaws serait eu de voir le choix du président en première page du journal en disant, mon Dieu, tel produit, choix du président, ben il y avait telle ou telle chose dedans, là, etc. Donc, eux, ils font extrêmement attention à leur image, là.
Je pense aux restaurateurs, parce que tu nous disais, je pense que dans l'industrie alimentaire ou dans la diffusion, là, la distribution alimentaire, il y a 65 % c'est les détaillants. Et un 35 % ce sont les restaurateurs. Mais ces gens-là, les restaurateurs, ils n'ont pas le premier sou pour faire ce genre d'analyse-là. Ils ne peuvent pas contrôler ça.
Bien, c'est pour ça que moi, je prétends que la fraude alimentaire est un problème qui est pire dans le domaine du service alimentaire.
Dans le domaine de la restauration, c'est ça que tu veux dire?
Oui, la restauration, c'est là où il y a un gros problème. J'ai participé à plusieurs enquêtes dans le domaine du service alimentaire, restauration, puis on voit vraiment qu'il y a un gros problème, surtout au niveau des fruits de mer. Poisson, fruits de mer, là, c'est vraiment là. C'est une filière qui est opaque pas mal. Il y a beaucoup de choses qui se passent en mer. On arrive avec le produit au quai. On ne sait pas trop si le poisson n'a pas sa tête. Là. Le meilleur programme de traçabilité pour ce qui est du poisson, c'est la tête du poisson. Si la tête est sur le poisson, on a de bonnes chances de savoir de quelle espèce il s'agit. Mais souvent, la tête est enlevée en haute mer. Donc, quand on arrive au quai, c'est déjà, il y a déjà un risque. Je ne veux pas dire que on va se faire tromper, mais il y a déjà un risque.
Mais les restaurateurs, c'est des individus, enfin, c'est des petites sociétés. Ils n'ont vraiment pas les moyens de faire des enquêtes, des recherches, puis de, tu sais, d'investir dans l'enquête là-dessus, là.
C'est des relations. On gère notre chaîne en restauration basée sur la confiance, finalement. Donc, on se fait dire. Moi, je suis convaincu que la plupart des restaurateurs vont vendre des produits qui sont mal étiquetés. Donc, on va apposer sur le menu des choses qu'on ne vend pas. On sert d'autres choses qui ne sont pas sur le menu sans le savoir. Mais ce qu'on pose, on pose pas les questions, mais ce qui se passe actuellement au niveau du marché, c'est que de plus en plus, les Canadiens, les consommateurs n'acceptent plus ça comme une excuse.
Okay.
On veut responsabiliser la chaîne. Et si le restaurateur ne le sait pas, les gens commencent à croire que le restaurateur devrait le savoir.
Il y a une chose que tu as dit aussi quand on s'en parlait, puis ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné ce que tu as dit. Tu as dit... Une des choses que tu as dit, c'est qu'il y a une certaine indifférence face à la fraude. Dans ton expression, c'est bon, l'opinion, c'est un peu so what, parce que les gens veulent acheter le moins cher possible les denrées. Écoute, on sait que le panier alimentaire coûte un prix de fou. Mais cette attitude-là, celle des gouvernements aussi, parce qu'on se parlait de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ça a un effet pervers, ça. Un effet pervers sur le développement de l'industrie alimentaire.
Politiser un problème comme la fraude, c'est pas facile. Mais d'évaluer le coût économique, c'est assez facile parce que si on accepte la fraude, si on normalise la fraude de façon implicite, on abaisse les standards. On abaisse les standards. Et on permet pas à l'innovation d'émerger, on permet pas à des entreprises d'arriver avec de nouveaux produits parce que les marges sont... On parlait de marge tantôt, là. La fraude alimentaire fait en sorte que, sans s'en apercevoir, là, les entreprises vont dire ben, on veut augmenter nos marges, mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que si tout le monde fraude, s'il y a beaucoup de monde qui fraude, ben, il y a plus de pression à la baisse pour ce qui est des prix.
OK. Mais donc, si je comprends bien, là, quand tu dis que ça empêche l'émergence de nouveaux produits, peut-être de nouveaux producteurs, peut-être des petits. Écoute, ce qui fait la fierté du Québec, une des choses qui fait la fierté du Québec, c'est ça. C'est l'innovation dans cette industrie-là qui est phénoménale depuis 20 ou 30 ans. Là, écoute, en matière de bière, en matière de charcuterie, en matière de fromage, c'est phénoménal. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que cette espèce d'acceptation qu'on a de la fraude, à moins que ça nous fasse vraiment mal, ça va empêcher des créatifs dans l'industrie alimentaire de se développer.
Oui, absolument. Ben, cette semaine, j'ai assisté au Grand Prix des produits alimentaires. On célèbre l'innovation alimentaire. Toutes sortes de beaux produits qui arrivent sur le marché. Moi, je suis convaincu que s'il n'y avait pas de fraude ou s'il y avait moins de fraude, j'ai l'impression qu'on aurait encore beaucoup plus de finalistes, encore beaucoup plus de beaux produits à valeur ajoutée. Mais pour l'instant, il y a des limites. La fraude, elle pose un frein. Freine l'innovation ou l'esprit entrepreneurial de certaines entreprises.
Écoute, est-ce qu'il n'y a pas un problème, comment dire, de gouvernance là-dedans? On dirait que c'est sans... Tu sais, chez nous, bon, il y a le fédéral, l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Je présume que le provincial s'en mêle. Je sais que le municipal s'en mêle d'une certaine façon aussi. Écoute, ce que j'ai lu, c'est qu'en Australie, le fédéral finance... mais les États qui sont leur province agissent. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de décentralisation qui serait souhaitable chez nous?
Bien, au niveau de la gouvernance au Canada, c'est sûr que quand on regarde les trois paliers gouvernementaux, il y a quand même une harmonie, moi je pense. Mais c'est les ressources qui manquent. Donc le fédéral va surveiller les établissements de licence fédérale. Même chose pour les provinces. Mais il y a certaines provinces, on ne prend pas au sérieux la salubrité et l'inocuité des aliments. Moi, je pense que le Québec, par exemple, est quand même assez proactif comme province. Là. Moi, je pense que le MAPAC fait un travail quand même assez acceptable. Là. Mais Montréal, c'est beaucoup de monde, beaucoup de restaurants. Il y a 57 inspecteurs à Montréal. C'est pas beaucoup, là. Et là, ces gens-là doivent surveiller la salubrité des lieux pour des dizaines de milliers de restaurants, là, d'établissements sur l'île. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de... Et là, si on parle de fraude, Bien, c'est des cacheteries, c'est des choses qui ne peuvent pas se voir visuellement. Il faut tester, il faut vérifier, etc. Donc, ce n'est pas évident. Là. Moi, j'ai déjà vu des cas de fraude à Montréal comme consommateur. Par exemple, puis c'était facile à voir. Là. J'étais dans un restaurant pour déjeuner et je voyais des œufs. On me disait que c'était des œufs bio. Puis je voyais des caisses vides à côté du kiosque et c'était pas des œufs, c'était pas des caisses d'œufs bio, par okay, exemple.
C'est un peu toto, là, franchement. Là, c'est un peu trop, c'était un peu évident.
Mais les employés, probablement, parce que c'était très occupé, il y a beaucoup de monde, on pense pas à ça. Quand on normalise la fraude, là, on peut avoir l'air toto, mais souvent, on s'en aperçoit plus. Là. C'est comme mentir. Là. Une fois, on croit à nos propres mensonges. Là.
OK, la limite n'existe plus entre un marketing correct et la fraude.
C'est ça, exactement. Mais là, c'est sûr que j'avais pas de preuve comme quoi les œufs qu'on observait, c'était les œufs qui arrivaient de la. Est-ce que vraiment la boîte était. Ce qu'on apposait comme information sur la boîte, c'était vraiment ce qu'il y avait dedans? Je ne sais pas. Il faut faire des. C'est pour ça que la fraude, c'est tellement difficile à prouver. Là. Le cas de Mucci Farms en Ontario. Les tomates mexicaines qui sont devenues les tomates canadiennes.
Oui, oui, oui.
Enquête de 3 ans, ça a coûté pratiquement un demi-million de dollars. Tu sais, c'est beaucoup de travail, la fraude, à démontrer. Et à la fin, Mucci Farms n'a jamais avoué son tort. A payé son amende, mais jamais. Il n'y a pas une entreprise au Canada qui a avoué son tort jusqu'à maintenant.
Sylvain, il ne me reste qu'à te souhaiter une véritable omelette avec des œufs bio bientôt. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi.
Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de lire l'enquête exhaustive menée sur le sujet par ma collègue Valérie Borde du magazine L'Actualité. Pendant 6 mois, Valérie a visité des laboratoires et consulté des experts ici et en Europe. Le titre de son article, Fraude au menu, et c'est dans l'actualité de juin 2018. Vous avez des questions? Vous vivez d'autres genres de situations? Suivez Options Consommateurs sur Facebook ou Twitter et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre balado. Bien voilà, c'était notre dernier balado pour cette saison. On se retrouve en septembre. Passez un très bon été. Au revoir.